Salut, salut, bienvenue à ce 14e épisode déjà de la saison 4 de Sur la ligne, le balado officiel, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado ainsi qu'au BPM Sport où on est diffusé. On est également en collaboration avec Tennis Canada, évidemment. Vous avez peut-être constaté qu'on le diffuse le podcast ou enfin on publie le podcast un peu plus tard, ben c'est de ma faute parce que j'ai été victime d'un sérieux virus et puis me voilà remis et prêt à attaquer de nouveau, mais j'étais loin d'être en game shape comme on dit. Il y en a un par contre qui est en game shape, il l'est toujours, c'est Hugues Léger. Hugues, comment te portes-tu, comment vas-tu mon cher ami, content de te retrouver.
Content de te retrouver aussi Alex, en pleine forme j'espère. Content aussi de voir le printemps finalement arriver après cette tempête de verglas qui a vraiment fait des ravages à Montréal. Je suis encore dans les rues de Montréal ce matin et les arbres sont encore jonchent un peu les rues partout. Mais c'est le printemps parce que la saison de terre battue commence. Moi, Monte-Carlo, tu sais Alex comment j'adore ce tournoi-là. Au port de la Méditerranée, on commence cette série de Masters 1000 avec Monte-Carlo, Madrid, Rome, qui est la route vers Roland-Garros, et on s'attend à un printemps vraiment excitant parce qu'il se passe beaucoup de choses là sur terre battue. Il y a beaucoup de sujets en cours, là, notamment qui sera le numéro un après cette période-là.
Ouais, toi, tu es la terre battue rouge parce que tu es un puriste et c'est l'ouverture de la saison de terre battue rouge parce qu'il y a quelques autres tournois un peu partout dans le monde en terre battue, mais qui ne sont pas toujours disputés sur terre battue rouge. C'est le cas notamment à Charleston, entre autres. Là, c'est comme une terre battue un peu grise. D'ailleurs, un peu comme les terrains qui sont au parc Jarry, là, au deuxième étage.
Oui, c'est ce qu'on nomme la terre battue américaine. C'est une surface qu'on appelle du hard true, qui est une roche concassée, en fait, là, qui donne un effet gris-vert quand les terrains sont bien préparés. C'est pas exactement la même sensation pour nos auditeurs que la terre battue rouge, qui est beaucoup plus douce. C'est comme du velours, hein, c'est comme une glaise. C'est pas le même feeling, mais bon, c'est quand même un peu les mêmes... Le même type de jeu où on doit apprendre à glisser. Donc, c'est intéressant là, pour nos auditeurs qui pourront essayer les deux surfaces dans leur vie. C'est vraiment une partie importante du tennis et de l'histoire du tennis aussi, la terre battue.
Mais là, avant qu'on tombe trop là-dedans, j'avais une question avant là, pour toi, parce que là, tu me parlais des pannes d'électricité. Dans les cantons, est-ce que ça a été pas si mal dans l'Estrie? En avez-vous perdu beaucoup? Ça ressemblait à quoi la situation là-bas?
Étrangement, Alex, quand on passait le pont Champlain vers les cantons de l'Est, il y avait un degré ou deux de plus, ça a tombé en eau. Donc, il n'y a pas eu cette tempête de glace qu'on a vue à Montréal et du côté de la Montérégie et de l'Outaouais aussi. Donc, on a été épargnés. Ça a été un week-end correct, finalement très beau là, samedi, dimanche. Mais non, il n'y a pas eu danger au niveau du verglas de notre côté. Même que les filets de tennis commencent à apparaître sur les terrains des cantons de l'Est en ce moment.
Au grand bonheur là, du bon Hugues qui pourra aller jouer. C'est au Lac-Brome que tu joues, c'est-tu là que...
Lac-Brome, à Knowlton, à Farnham, à Granby. Donc, toute la région est une belle région de tennis. Il y a beaucoup d'endroits où on peut pratiquer le tennis dans le canton.
C'est beau, l'Estrie, en plus, là, pour les gens. Vous pouvez faire une petite journée tennis, une petite journée spa, peut-être. Là. Il y en a quelques-uns dans ces eaux-là également. Là. Et puis, pourquoi pas cumuler ça avec l'été puis aller faire un tour au tournoi de Granby un peu plus tard dans l'année. Mais voilà, moi aussi, je m'en suis sorti merveilleusement bien. Là. J'en ai manqué pour à peu près 2 ans. Et ça s'est passé dans ma sieste de l'après-midi. Alors, ça n'a pas été si mal. J'ai pas trop perdu d'électricité, mais j'ai beaucoup de compassion avec beaucoup de monde qui habite sur la rive nord de Montréal, dans l'ouest. Là, j'ai des amis
qui... Ça a été compliqué.
Dieu, que ça a été compliqué. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui travaille de la maison hein, maintenant. Alors, ça peut avoir changé la donne pas mal. Alors, je suis de tout cœur avec vous. Maintenant, Hugues, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. On va faire un rapide résumé de ce qui s'est passé le week-end passé parce qu'on est déjà à mi-semaine, et puis je ne veux pas trop qu'on s'attarde sur une liste de résultats, mais parlons d'abord et avant tout rapidement de Casper Ruud, champion à Estoril. On a émis des doutes, hein. J'en avais parlé là, dans les semaines précédentes pour dire hey, attendons, là, Félix Auger-Aliassime, parfait, connaît pas un début de saison à la hauteur de la fin de saison qu'il a connue, mais j'avais dit que Casper Ruud, c'était encore pire. Et là, gagne sur terre battue. La question qu'on commence à se poser, Hugues, c'est est-ce qu'il est l'homme d'une seule surface, selon toi?
C'est une bonne question. C'est vrai qu'il était un peu discret, Casper Ruud, depuis le début de la saison, malgré une saison 2022 exceptionnelle, des belles performances sur terre battue, évidemment, finale à Roland-Garros, mais aussi une belle performance dans la série américaine, notamment à Montréal, au US Open, mais beaucoup plus discret depuis ce temps-là. Et durant la tempête de glace, évidemment, on a regardé le tournoi d'Estoril au Portugal, très beau tournoi aussi au bord de la mer, un beau ATP 250 qui avait un tableau vraiment intéressant aussi cette année. Et Casper Ruud a fait toute une semaine à Estoril. Sa demi-finale contre le Français Quentin Alis, dont Djokovic a parlé en début d'année. Attention à Quentin Alis, un joueur qui est pas tout jeune, mais qui semble avoir une poussée en ce moment de son côté, a fait un match en 3-7 extrêmement serré qui s'est terminé au tie-break du troisième set contre Casper Ruud en demi-finale. Ruud a terminé de belle façon quand il y a eu une occasion. Finale contre Kecmanovic, remporté en 2-7. Ruud, effectivement, semble avoir retrouvé sa terre battue, qui est sa surface. Mais j'ai hâte de voir s'il pourra tenir ce rythme-là contre les joueurs les plus forts dans un tableau de Masters 1000. Hein. Il est à Monte-Carlo cette semaine et on verra. Mais effectivement, comme Medvedev, on s'en parlait hors d'onde avant, semble évidemment... Il s'autoproclame comme spécialiste sur surface dure, mais on sait qu'il veut mieux faire sur terre battue. J'ai l'impression que Casper Ruud aussi, au fil du temps, va se placer comme un spécialiste de terre battue. Mais il faudra voir ce qu'il pourra enchaîner comme victoire dans les prochaines semaines pour confirmer cette belle victoire à Estoril.
Écoute, c'est son 10e titre en carrière à Estoril. Son titre à Estoril est son 10e titre et la plupart sont survenus sur terre battue. En fait, ils sont tous survenus sur terre battue, sauf un seul à San Diego en 2021. Tous les autres titres sont sur terre battue dans le cas de Casper Ruud. Mais bon, en même temps, bon, disons-le, tu n'es pas quatrième mondial si tu ne gagnes que sur terre battue. Cela dit, si je ne me trompe pas, c'est une surface beaucoup plus payante parce qu'il y a des tournois à l'année longue sur terre battue.
Exact. Alex, on en avait déjà parlé, puis je le redis pour le bénéfice de tout le monde qui nous écoute. Casper Ruud a été habile pour bien choisir ses tournois, pour monter au classement. Il a fait beaucoup de 250, notamment sur terre battue, notamment dans ce stretch après Wimbledon et avant la tournée américaine où beaucoup de joueurs prennent une pause, en fait. L'an passé, il avait été chercher beaucoup de points sur ces tournois-là. Je pense qu'il a eu 3 victoires de suite. Donc, il a bien géré sa montée au classement. Mais effectivement, on peut en trouver toute l'année des tournois sur terre battue. Il y en a en Europe de l'Est aussi. Il y en a évidemment en Amérique du Sud. Il y en a au Mexique. Donc, si on fait notre calendrier autour de la terre battue, on peut se monter un classement extrêmement intéressant. Je me rappelle d'un joueur qui a eu des très bons succès sur terre battue. Pour ceux qui s'en souviennent, Thomas Muster, l'Autrichien, qui avait justement cette approche à sa planification du calendrier, mais réussissait à aller chercher des grosses victoires, par exemple, à Monte-Carlo, notamment, où il a déjà été champion. Mais effectivement, la terre battue, on peut être spécialiste et en faire une très belle carrière, avoir un bon classement et faire beaucoup d'argent en étant spécialiste de terre battue rouge.
Non, exact. Mais en même temps, c'est ça. Ça prend quand même de la constance sur les autres surfaces. Il y a beaucoup de points à aller chercher sur les autres surfaces. Moi, je ne serais pas prête à dire qu'il est l'homme d'une seule surface. Cela dit, il est certainement un des dauphins à Rafael Nadal comme joueur qu'on pourrait voir dominer la terre battue pour les prochaines années. Pendant longtemps, on pensait que peut-être Dominic Thiem allait être ce joueur-là. C'est pas ça qui est arrivé. On l'a même vu gagner à la place un tournoi au US Open. Mais Casper Ruud est peut-être le joueur qui pourrait devenir le meilleur joueur sur terre battue dans les 5, 6, 7 prochaines années.
Oui, on verra. Je dirais que les paris sont ouverts sur ce point-là. On attend de grandes choses d'Alcaraz aussi, notamment cette année. Souhaitons que sa blessure le ralentisse pas trop durant cette saison de terre battue. Mais effectivement, les dauphins de Nadal sur terre battue, assurément Ruud, assurément Alcaraz. Mais n'oublions pas Tsitsipas, qui a gagné 2 fois à Monte-Carlo 2021-2022. Il est deuxième favori cette semaine. Donc, je mets Tsitsipas dans le lot aussi comme un champion potentiel de Roland-Garros. Mais c'est eux qui dominent en ce moment sur cette surface-là. On verra ce que les Holger Rune, notamment, là, pourront faire cette année. Mais ça reste un club assez sélect. Il faut un talent particulier pour gagner et pour durer sur terre battue.
Ah ben ça, c'est vrai, c'est une surface qui est très difficile.
Oui.
Rapidement, je veux qu'on parle dans ce tournoi-là également, Hugues. J'ai mentionné son nom il y a quelques secondes et c'était par pur hasard, là, mais Dominic Thiem, qui a fait un quart de finale à Estoril, c'est un gars qu'on n'attendait presque plus. Là. Il a à toute fin pratique presque rien fait depuis le début de l'année, il n'avait pas passé un deuxième tour. Et là, fait un beau quart de finale. Bon, c'est intéressant,
oui.
Ça.
Oui.
Est-ce que Dominic Thiem peut revenir parmi les meilleurs joueurs au monde? Le vois-tu revenir dominant?
Bon, c'était la première fois à Estoril qu'il enchaînait deux victoires de suite. Il faut quand même le dire, là, c'est... Il y a une année compliquée, on s'en parle souvent entre nous, on se disait, bon, est-ce qu'il peut vraiment venir? Il semblait avoir beaucoup moins de réussite sur des coups qu'il maîtrisait parfaitement auparavant. Mais là, il enchaîne deux victoires à Estoril, quart de finale, comme tu le dis. On voit une belle confiance là, qui commence à reprendre sa place. Et il se fait offrir une wild card pour Monte-Carlo, qui convertit dès son premier tour avec une victoire nette contre Richard Gasquet. Donc, écoute, Thiem, on verra encore une fois les prochaines semaines. Pour moi, c'est trop tôt pour dire s'il est de retour parce qu'il a tellement de difficultés depuis un an et demi. Mais bon, il fait le maximum en ce moment et il commence à enchaîner quelques bonnes performances. Mais on pourra s'en reparler dans quelques semaines. Moi, j'ai un doute qu'il puisse revenir au plus haut niveau, même top 10. Là. On verra, mais je suis content quand même pour lui que tous ses efforts commencent à payer en ce moment.
Il s'est séparé de son entraîneur
Nicolas Massou.
Nicolas, ouais. Massou. Je ne sais pas,
exact.
Si ça va faire une différence. Ça me faisait rire. Je voyais avec Nicolas Massou. Toi là, qui connais à peu près tout du tennis, quel est le plus grand fait saillant de Nicolas Massou?
Ça, c'est une bonne colle. J'ai pas la réponse. Je sais qu'il y a eu un fait d'armes à un moment donné, mais ça me revient pas, là. Je t'écoute.
Et c'est honnêtement, tout le monde tombe à terre quand tu vois ça. Il est médaillé d'or olympique.
Simple ou en double?
Les deux.
OK, wow. OK, simple et double.
Alors, et c'est drôle parce que c'est pas le, tu sais, il y a les Andy Murray qui ont gagné des grands chelems, les Nadal,
oui.
Etc. Mais Nicolas Massou est un champion particulièrement atypique olympique. Mais le tournoi olympique a quelque chose de spécial quand même. Alors voilà, on est là pour vous informer et vous donner des fun facts, comme on dit. Alors, ben voilà, ça fait le tour à Estoril, là, Casper Ruud. On verra qu'est-ce que ça va donner. Gardons du coin de l'œil peut-être un certain Dominic Thiem. Il a des résultats,
oui,
encourageants et avec le talent qu'il a, faut pas le négliger, même si les dernières années, en fait, depuis son titre au US Open, ça a été très, très, très compliqué là, dans le cas de Dominic.
Il y a eu des blessures, hein,
c'est
faut pas oublier.
Oui.
C'est pas juste qu'il y a baissé au classement, il y a eu une blessure importante au poignet, là, donc ça a compliqué son retour. Hein.
Tiafoe a remporté à Houston. Est-ce que Tiafoe, c'est un joueur que tu verrais comme un... Ben, je vais le dire comme ça, comme un gars qui pourrait prétendre à la couronne à Roland-Garros? Est-ce que c'est un gars qui peut bien se défendre sur terre battue?
J'apprécie beaucoup l'énergie que Francis Tiafoe amène sur le terrain. C'est un bon joueur pour le tennis en général, pour le tennis américain en particulier. C'était le fun de le voir gagner ce tournoi à Houston. Du côté américain, évidemment, c'est le dernier tournoi avant que certains joueurs américains le passent du côté européen pour la tournée sur terre battue rouge. Et il a vraiment très bien joué. Par contre, c'est pas un tournoi de premier plan au niveau de la terre battue. Les meilleurs joueurs étaient pas présents à Houston. Mais Tiafoe, quand même, peut être un facteur dans les tableaux des prochaines semaines, là. Huitième de finale, quart de finale, assurément. Mais je pense que Francis Tiafoe, c'est un joueur de surface dure avant tout.
Intéressant. Mais quand même, ça va lui donner une certaine confiance dans cette saison de terre battue. Du côté des hommes, le mentionnons également Roberto Cabellas Baena, qui est champion à Sand 2. C'est la seule chose qu'on va dire là-dessus. On a
d'autres
ajouter. 11 Jabeur a remporté Charleston. Ça, c'est intéressant parce que c'était un bon résultat pour 11 Jabeur. C'est toujours une fille hyper dangereuse. On le sait, c'est une finaliste à Roland-Garros. Alors, elle est très bien capable de se défendre sur terre battue. Mais c'est pas de 11 Jabeur dont je veux parler dans ce tournoi-là. C'est Leila Annie Fernandez. D'ailleurs, qu'on aura en entrevue dans le bloc 2, restez là. On lui a parlé dans le cadre de la Coupe Billie Jean King. Et elle nous a dit une chose intéressante. Elle dit qu'elle n'était pas très satisfaite de sa saison. Vous pourrez l'entendre. Mais écoute, quand je regarde les dernières semaines, parce que là, à Charleston, elle a perdu contre Paula Badosa, 7-5, 7-6.
On s'entend que Badosa,
très serré. J'aime pas ça dire ça, mais en même temps, ça l'est. C'est une défaite honorable. Badosa, c'est une des meilleures joueuses au monde. Oui. Elle est là, c'est une fois de plus prouvé qu'elle peut jouer contre les meilleurs. C'est une autre défaite au deuxième tour. Non, elle ne gagne pas beaucoup. Elle n'avance pas beaucoup dans les tournois. Mais regarde bien. Paula Badosa à Charleston. Deuxième tour à Miami, Belinda Bencic. Deuxième tour à Indian Wells, Caroline Garcia. Deuxième tour à Dubaï, Iga Swiatek. À Doha, ouais. Bon, à Doha, c'était en qualification, là, mais c'est Carolina Pliskova, une ancienne numéro un mondiale. À Melbourne, deuxième tour, Caroline Garcia. Je veux dire, à un moment donné, je comprends qu'on peut être sévère avec Léla ou dire qu'elle n'est pas, mais quand tu regardes la qualité des adversaires qu'elle a frappé tôt dans le tableau, moi, je suis prête à lui donner une espèce de laisser-passer pour dire malchance du tableau. Ou est-ce que c'est elle qui crée sa malchance, comme on en parlait dans les dernières semaines, en se disant « ben augmente ton classement, puis tu n'auras pas des adversaires si importants dans les premiers tours. » Je ne sais pas, tu en penses quoi?
Oui. À part le match contre Bencic, là, où elle est un peu passée à côté, selon moi, effectivement, elle chauffe des joueuses du top 10. Là. Quand tu fais des 7-5, 7-6 à Badosa, à Garcia, c'est que tu es vraiment, vraiment dans le coup. Mais tu l'as dit, il faut qu'elle monte un peu son classement pour s'éviter ses premiers tours de deuxième tour. Vraiment, vraiment compliqué. Tu veux ces rencontres-là en quart de finale, en huitième de finale, mais pas au premier ou au deuxième tour. Elle se complique beaucoup la vie. Donc, il faut qu'elle trouve elle aussi une façon d'accumuler des points. Je pense que c'est pour ça qu'elle voulait jouer à Charleston aussi. Elle est consciente, effectivement, que son début de saison n'est pas au niveau qu'elle aurait souhaité. Donc voilà pour Léla. C'est quand même intéressant pour elle aussi d'avoir cette lucidité sur son début de saison. Et je suis vraiment content qu'on ait pu avoir un petit peu de temps avec elle aujourd'hui. Donc Léla, on verra les prochaines semaines. Puis oublions pas l'an passé son quart de finale à Roland-Garros contre Trévisan où elle s'est blessée au pied, ce qui a affecté cette blessure une bonne partie de sa saison. Et c'était le quart de finale, et elle aurait pu ou dû gagner ce match, je le répète, on en a parlé une couple de fois déjà au podcast, et une victoire contre Léla, elle aurait mis en demi-finale à Roland-Garros. Donc, elle peut jouer sur terre battue, Léla Fernandez. J'ai bien hâte de voir les prochaines semaines. Puis elle va emmagasiner, je rebondis sur la Billie Jean King Cup là, qui joue le week-end prochain, elle va emmagasiner de l'énergie de jouer avec ses coéquipières en équipe. On sait que c'est un moment important, et je pense qu'elle va arriver en Europe. Là, elle devrait jouer, elle nous a dit, Madrid. Dans les prochaines semaines, avec beaucoup, beaucoup de confiance et beaucoup de volonté de bien faire. Donc moi, j'ai un bon feeling pour Léla, là, pour la saison de terre battue.
Ouais, ben c'est intéressant. Écoute, on va voir, on va vous laisser voir sa perception de sa saison dans l'entrevue qu'on a fait. Mais quand même, moi, je suis prêt à lui donner un peu de crédit quand même là sur ça. Une autre fille qui était dans ce tournoi-là et qui, honnêtement, s'est peut-être gagné une place à la Billie Jean King après à la Coupe Billie Jean King après ce tournoi-là, c'est Catherine Sebov parce qu'elle a réussi à se qualifier et elle a fait un deuxième tour. Avant de perdre contre Bencic, c'est quand même une bonne performance contre une fille qui honnêtement joue que très rarement des tournois de ce niveau-là. Je pense que c'est une belle expérience pour elle, puis elle pourra ajouter à cette expérience-là en regardant les meilleures Canadiennes à la Coupe Billie Jean King.
Absolument. Absolument. C'est un mal pour un bien, hein. C'est vraiment une belle opportunité pour Catherine Sebov qui joue bien depuis quelques temps en Challenger notamment. Très dommage que Bianca se soit blessée. Mais c'est une opportunité pour Catherine Sebov. La capitaine Aidiel Tabak est très contente que Catherine Sebov est là. Puis je pense que les autres joueuses vont l'accueillir à bras ouverts, évidemment. Et c'est ce genre de joueuse qui arrive, qui peut mêler les cartes un peu aussi. La Belgique ne l'attendait sûrement pas dans l'équipe canadienne. Donc, je pense que ça pourrait être un joker dans la manche de Heidi Altabak, la manière dont elle va utiliser Catherine Sebov. Alors, elle choisit évidemment en simple entre Sebov, Fernandez et Rebecca Marino. Et on sait que Gabby Dabrowski sera aussi là pour le double, qui est une des meilleures joueuses au monde en double.
Exact. Bon, alors, ben, bravo à Catherine Seboff. C'est une belle performance dans les circonstances. Un résultat certainement qu'elle va prendre. C'est une fille qui joue surtout des tournois de plus petite ampleur, ou des qualifications dans les gros tournois, mais elle passe rarement. C'était un beau talent, là. Catherine Seboff, c'est la même génération que Bianca, Charlotte, etc. Ouais. Là. Mais son développement, disons-le, tarde un peu à éclore. Puis rapidement, pour terminer le bloc 1, Hugues, je veux qu'on parle de Bogota. C'est Tatiana Mariana qui a gagné le tournoi, mais ce n'est pas de elle dont je veux parler plus qu'il faut. C'était le retour d'Eugénie Bouchard à Bogota. Elle a fait un deuxième tour. Déjà une victoire dans le cas d'Eugénie Bouchard, c'est quand même pas si mal. Toi, la semaine passée, tu te disais, je suis content quand même de l'avoir simplement vouloir continuer à jouer. Elle a fait une belle performance dans son deuxième tour. Là, c'était un match très, très, très serré. Est-ce que tu penses que ça peut lui donner confiance ou c'est trop peu de résultats pour que ce soit significatif pour l'instant?
Moi, j'aimerais beaucoup parler à Eugénie. On va essayer de l'inviter au podcast pour savoir ses objectifs pour cette année. Parce que, bon, évidemment, dans quelle perspective elle fait ses matchs en ce moment? Elle veut refaire des points, elle veut remonter au classement, elle veut faire une dernière poussée sur un an, deux ans, trois ans. On sait que c'est pas évident de remonter au classement. Donc, je serais curieux de savoir ses intentions pour la suite de sa carrière. Mais je suis extrêmement content de l'avoir joué, de l'avoir compétitionné, de l'avoir se battre pour gagner des matchs. On va la prendre où elle sera, je dirais, là, dans les prochaines semaines. J'espère qu'on pourra l'avoir à Montréal cet été. On sait que c'est les filles qui sont à l'Omnium Banque Nationale au Stade IGA cet été. Ça serait peut-être un bon moment pour faire une belle performance ou peut-être même tirer sa révérence. On ne sait pas. On sait qu'elle a préparé son après-carrière. Elle a été commentatrice, notamment pour Sportsnet. Donc, j'ai bien hâte de voir là, qu'est-ce qu'elle prépare pour la suite, Eugénie. J'aimerais ça en savoir un petit peu plus. J'aimerais ça lui en parler d'ailleurs. Mais c'est le fun de l'avoir sur les terrains et de bien jouer.
On jase, je ne veux pas lui prêter d'intention, mais tu en connais plus que moi à ce niveau-là. Est-ce que ça peut être une question de commanditaire pour dire, dans son contrat, il y a peut-être un minimum de tournois qu'elle doit jouer par année? Est-ce que ça peut être ça?
C'est possible. C'est possible. On sait qu'elle avait signé avec New Balance quelques temps avant qu'elle se blesse. Effectivement, les contrats et les paliers de rémunération et de bonus sont reliés au nombre de tournois joués parce que la visibilité, évidemment, vient avec le fait que tu joues des tournois, vient avec tes résultats au niveau du classement aussi. Donc effectivement, tout ça sont des points qui sont à considérer dans les raisons et les objectifs de son retour. Mais je vais lui prêter des intentions pures au fait qu'elle a envie de jouer, envie de gagner. Si elle souhaitait pas se battre pour gagner des matchs, elle pourrait faire d'autres choses pour son commanditaire. On sait que Eugénie attire beaucoup de gens. Merci. Donc, il y a plusieurs façons de remplir ses engagements avec ses commanditaires. Donc, moi, je pense qu'elle a envie de jouer au tennis, mais tout ça va ensemble, évidemment. Mais espérons qu'on va l'avoir beaucoup là, dans les prochains mois, qu'elle fera différents types de tournois. Puis je suis content de l'avoir utilisé, ne pas utiliser de wildcard et jouer dans des tournois de niveau un petit peu plus bas, voire des challengers. J'aurais aimé la voir faire ça il y a 3-4 ans pour qu'elle rebâtisse une confiance, qu'elle remonte. Elle n'a pas fait beaucoup ça à une certaine époque. Et là, c'est là où elle évolue en ce moment. Et on sait que ça peut être un tremplin pour des joueurs et joueuses de prendre un peu de recul des fois, d'être joueur de Challenger ou en 250 pour remonter au plus haut niveau. Je vous rappelle un certain André Agassi qui était baissé au 190e rang mondial, qui a joué en Challenger avant de remonter à la première place mondiale et de gagner Roland-Garros. Donc, il n'y a pas de honte à faire des tournois Challenger à un moment donné quand on a eu une plus grande carrière avant. C'est pas du tout un problème. C'est même admirable de voir qu'on repasse par ce niveau-là pour remonter au classement.
Chose certaine, tu sais, on ne se le cachera pas. On est des fans d'Eugénie Bouchard. Et ce qui est bon pour Eugénie Bouchard est bon pour le tennis également. Oui. Ça, c'est certain. Elle est une bonne porte-étendard pour le sport féminin et canadien. Ça, c'est certain. Et puis, honnêtement, on va se dire, sur le terrain, c'est rare qu'elle ne donne pas un bon spectacle, Eugénie Bouchard.
Oui, oui.
Que tu l'aimes ou pas, elle donne un show sur le terrain.
Oui. Elle va toujours attirer des foules, non seulement pour sa notoriété, mais elle a un style de jeu excitant. C'est une joueuse, c'est une joueuse d'attaque. Elle amène beaucoup d'énergie sur le terrain. Elle est agréable à avoir joué, Eugénie, là. Elle a un très beau style de jeu. Donc effectivement, c'est une ambassadrice quand même importante pour le tennis, mondial, je dirais, encore maintenant. Puis évidemment, c'est une tête d'affiche partout où elle va aller. Là. C'est quelqu'un qui fait vendre des billets, il faut le dire aussi. Mais elle amène un jeu vraiment intéressant sur le terrain, Eugénie, même si c'est plus une top 10 mondiale.
Alors, Hugues, ben écoute, on va suivre, on va voir qu'est-ce qui va arriver du côté d'Eugénie Bouchard. On va faire un peu de place à nos commanditaires. On fait une courte pause et puis au retour, on s'entretient avec Leila Annie Fernandez qui vient faire son tour une fois de plus au podcast sur la ligne.
Réservez votre séjour à l'hôtel Montville et ajoutez une expérience thermale au Strom Spa Nordique à seulement $70 directement sur le site hotelmontville.com. Ambiance décontractée, design très recherché, techno bien maîtrisé, toujours amical. Montville, c'est Montréal. Venez découvrir cet hôtel incontournable et son restaurant Monem qui met en avant des cocktails créatifs et des plats généreux inspirés de la gastronomie française. Rendez-vous sur hotelmonville.com.
Numéro 2 de l'émission, on va parler de la Coupe Billie Jean King qui s'en vient. Bon, on aura une édition sans Bianca Andreescu, Hugues Léger, parce que, bon, on a vu ce qui s'est passé avec, bon, cette blessure spectaculaire, je vais le dire comme ouais. Ça, à Miami, où on l'a vu sortir en chaise roulante et, bon, elle a mentionné elle-même que c'était plus de peur que de mal, mais sur le terrain, bon, elle a dit qu'elle n'avait jamais ressenti une douleur aussi intense, mais bon, elle est visiblement pas prête à jouer pour l'instant. D'ailleurs, on n'a pas trop de nouvelles à savoir quand est-ce que ça se passera. Alors, la tête d'affiche sera celle dont on a parlé un peu plus tôt dans l'émission, Leila Annie Fernandez. Tu vois ça comment, a priori, ce match-là contre la Belgique, parce que même s'il n'y a pas de grandes vedettes, il y a beaucoup de bonnes joueuses. Il y a une certaine profondeur dans cette équipe-là. C'est pas gagné d'avance pour le Canada, même si on a une joueuse comme Leila.
Oui, leur première joueuse là, sur l'équipe, c'est Bonaventura, qui a posé des problèmes à nos joueuses canadiennes dans le passé, notamment Rebecca Marino, notamment Leila. Mais bon, je pense qu'on reste quand même favori de cette première rencontre de qualification pour la Billie Jean King Cup 2023. La profondeur de notre équipe, notre qualité en double aussi, je crois qu'on va gagner cette rencontre contre la Belgique. Leila nous l'a dit, ça va être difficile. Ils s'attendent à une rencontre extrêmement bien disputée. Ils ont la vétérane aussi, Flipkens, sur l'équipe qui devrait amener un bon niveau de jeu. Je crois que Flipkens sera en double. Donc, voilà. Puis, bon, encore une fois, Rebecca joue à la maison. Ça va être au Pacific Coliseum de Vancouver, là où on avait joué aussi le printemps passé. Mais je pense que la foule, la qualité, la profondeur de l'équipe canadienne fait en sorte qu'on devrait passer cette phase de qualification et aller au prochain tour. Et peut-être ramener Bianca Andreescu plus tard dans la saison là, pour revenir en force vers les finales en fin de saison.
Ah, tu vois, hein? Moi, mon analyse, elle est peut-être un peu différente. Évidemment, Rebecca Marino, elle est bonne, mais je regarde l'équipe de la Belgique et je me dis qu'il y a un peu plus de profondeur. Tu sais, même une fille comme Janina Wickmayer qui a déjà gagné 5 titres sur le circuit de WTA, là, puis des titres comme Washington, on parlait d'Estoril tout à l'heure, c'était le cas, Oakland également. Écoute, il y a quelques titres là, pareil, dans cette formation-là, en simple du côté.
Mais son classement a baissé beaucoup quand même, mais tu as raison de le dire. C'est une fille qui peut gagner des matchs, qui peut gagner des tournois.
Oui, bien 100%. Là, je veux dire, ce à quoi je fais référence, il y a à peu près une dizaine d'années là, où elle était bon, oui, une des bonnes joueuses. Là, alors, on s'entend, là, je suis d'accord avec toi. Je faisais plus référence à l'expérience. Pour ceux que ça intéresse, le Canada n'a jamais battu la Belgique en Coupe Billie Jean King, autrement appelée la Fed Cup. Le dernier affrontement remonte à 2009. C'était les Belges qui avaient battu le Canada dans un match de groupe mondial 2. Sinon, les autres confrontations, Hugues, là, si tu t'en souviens, t'es bon. 1981 et 1969, ce sont d'autres époques. Mais le Canada n'a jamais battu la Belgique. Alors, ce serait un bon timing, comme on dit, pour faire une première victoire contre la Belgique. Bon, Je disais qu'on avait eu Leila Annie Fernandez en entrevue. On lui a parlé. Écoute, on a parlé d'Abelie Jinkic. On avait Isabelle Etier également avec nous pour parler de certains programmes de tennis canard. Je vous invite à écouter cette entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt. Alors, au podcast sur la ligne, on a la chance, l'honneur une fois de plus de recevoir Leila Annie Fernandez. Leila, on est en compagnie aussi d'Isabelle Etier dans le cadre de la collaboration avec Femme d'Hockey. Si tu ne la connais pas, elle travaille avec nous sur le podcast. Mais dans un premier temps, Leila, avant qu'on rentre dans la Belle et Jinkic, comment vas-tu? Comment te portes-tu?
Je vais très bien. Bon, premièrement, bonjour tout le monde. Merci pour m'avoir ici. Je suis très contente de parler avec vous et... Maintenant, je me sens très bien. Je suis très contente, très contente d'être à Vancouver, de jouer avec l'équipe canadienne et de revoir ma capitaine, puis de jouer à côté de Rebecca, Gabi, puis Catherine.
Et bon, débutons rapidement sur cette confrontation-là. Leila, c'est pas des. Quand on regarde les noms du côté de la Belgique, il n'y a pas de grandes stars, mais il y a d'excellentes joueuses quand même qui peuvent embêter les Canadiennes. Tu vois ça comment, ce premier affrontement-là?
Ouf, l'affrontement, ça va être très difficile. L'équipe belge, ils ont des très bonnes joueuses. Surtout ici, dans un terrain intérieur, ils adorent les cours rapides. Alors, ça va être une très bonne compétition. Mais j'ai beaucoup de confiance dans mon équipe canadienne. Rebecca, Catherine, elles sont en train de jouer très, très bien le tennis en ce moment, améliorer chaque semaine, monter dans le classement. Gabi, elle est une très bonne joueuse de double, puis elle amène cette énergie très positive, que ça nous donne la confiance qu'elle sait que nous les joueuses de simple, on va bien faire.
Hugues, je te laisse enchaîner, Isabelle, par la suite.
Parle-nous un petit peu rapidement de ton début de saison, puis comment tu te sens après quelques mois en 2023, puis quelles seront les prochaines étapes pour toi dans les prochaines semaines? Terre battue rouge, j'imagine, qui s'en vient.
Oui, bon, début de semaine, c'était un peu compliqué, les résultats pas très bien, mais j'ai beaucoup de confiance en moi-même, je me sens plus forte physiquement et mentalement. Mon jeu de tennis, ça progresse très bien chaque entraînement et c'est ça le plus important pour moi. En ce moment, je suis toujours en mode développement. Alors, de voir que mon tennis est en train de progresser, puis chaque match que je joue contre des joueuses de haut calibre, c'est de plus en plus proche. C'est juste quelques moments clés que je dois améliorer, mais je ne peux pas me plaindre qu'au moins j'ai cette opportunité de jouer contre ces joueuses et de voir où est mon jeu de tennis. Puis, dans les prochaines semaines, après la Billie Jean King Cup, la saison de terre battue commence et je pense que mon premier tournoi, ça va être Madrid. Après, je vais jouer Rome, peut-être Rabat et aussi Roland-Garros. Et ça va être des semaines très, très dures physiquement. Alors, j'ai hâte de retourner sur la terre battue puis de travailler fort.
Isa?
Elle est là. Tu dis que tu as une force de caractère, tu travailles fort. Moi, j'ai envie de savoir, c'est la Billie Jean King. Ça porte le nom d'une grande fondatrice. Hein, bon, c'est la 60e cette année. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que cette femme-là représente pour toi, en fait?
Billie Jean King est une femme, pour moi, est une femme indépendante. Elle est très indépendante. Elle a un rêve, puis elle veut juste travailler fort pour que ce rêve soit une réalité. Mm-hmm. Depuis longtemps, dès le début, quand elle était les premières joueuses de femmes pour la WTA, leur rêve, c'est d'avoir avoir un tournoi que tous les joueuses de femmes peuvent jouer, compétitionner, puis que ça soit un tournoi pour que tout le monde peut voir, pas seulement voir les hommes, mais aussi les femmes, parce que les femmes travaillent aussi fort qu'eux. Alors, je suis très contente que Billie Jean King a pu se battre et nous donner une opportunité de jouer le tennis ici dans ce monde maintenant.
Tennis Canada a sorti son programme, justement, qui veut amener de plus en plus de femmes, autant sur le terrain, des jeunes filles. Bon, toi, à l'âge de 13 ans, tu as gagné le junior, justement, canadien à l'Île-des-Sœurs, où je joue. On a aussi des données qui disent que les jeunes filles, rendues à l'adolescence, une fille sur dix va jouer. Une fille sur trois va abandonner. Un sur dix, c'est des garçons. Comment un tournoi comme ça, qui peut être médiatisé, peut aider à garder les filles sur le terrain?
Je pense si les filles peuvent nous voir se battre chaque jour et juste voir qu'on est en train de jouer un tournoi de tennis qui n'est pas seulement pour nous, mais pour le pays, pour le Canada. Je pense que ça va leur donner comme la confiance qu'eux aussi peuvent jouer un match et ils n'ont pas besoin d'abandonner aussi facilement. Bien sûr, c'est difficile de faire cette décision d'abandonner ou d'arrêter ou jouer au tennis, mais en même temps, je veux pas que les parents ou les entraîneurs forcent les filles pour jouer le tennis parce que sinon, s'ils jouent le tennis, elles n'ont pas l'amour nécessaire pour continuer, pour se battre. Alors, sinon, c'est leur décision, c'est ce qu'elles veulent faire. Bien sûr, pour moi, je veux que plus de jeunes filles jouent au tennis et qu'il y aura plus de Canadiennes dans la WTA parce qu'on a beaucoup de gros talents à Montréal. Je sais qu'à Montréal, il y a beaucoup de grands talents. Toronto aussi, et même ici en Vancouver, tout le Canada, on a beaucoup de jeunes filles qui montent dans le classement de junior et dans le classement professionnel. Alors, j'espère un jour, il y aura plus de filles dans la WTA en train de jouer des grands chelems.
Puis là, habituellement, je fais un petit jeu dans mon balado, tir de barrage. Là, j'ai envie de te poser deux, trois questions. On va appeler ça des bris d'égalité si okay. Tu te permets. Si je te demande, endurance ou puissance?
Endurance.
Endurance. Si je te demande, bol ou sandwich et Subway?
Ouf, sandwich de Subway.
une médaille olympique ou la Coupe Billie Jean King?
Oh, wow! C'est difficile, mais je dirais plus la Coupe Billie Jean King.
OK.
C'est parce que je pense que si le Canada, nous, on peut gagner la Coupe Billie Jean King, il y aura plus de jeunes filles qui jouent le tennis.
Alors, j'aime ça.
Ça va donner plus de marketing pour des filles.
Je te pose une dernière. Roger Federer ou Wayne Gretzky?
Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire?
j'ai entendu que Wayne était ton athlète canadien préféré.
On va dire Wayne Gretzky.
J'aime ça.
Mais Léla, merci infiniment d'être passée une fois de plus au podcast sur la ligne. Je sais que tu nous suis un peu sur les médias sociaux, alors nous autres, ça nous fait plaisir un peu de te suivre. Ça nous fait toujours sourire de voir que tu nous suis un petit peu. Et puis, bonne chance contre la Belgique. No cheering on the press box, mais go Canada. Et puis, au plaisir, tu reviens nous voir quand tu veux, Léla.
OK, parfait. Merci beaucoup de me voir. Je suis très contente de vous parler, d'avoir cette conversation et j'espère que bientôt on aura une autre conversation.
T'es invitée quand tu veux, Léla.
Toujours la bienvenue.
Bye-bye.
Merci, bye.
À bientôt, bye-bye.
Ce qu'elle est charmante, Léla Annie Fernandez, elle a un charisme fou, Hugues, on va se le dire.
Oui. Oui, elle est impressionnante. C'est une vraie pro. Elle est intéressante, elle est candide aussi. Moi, je vais toujours me souvenir de son discours au US Open à la fin de cette finale perdue contre Raducanu. Elle avait conquis le cœur des New-Yorkais. On sait que c'est pas une chose facile. Donc, Léla a beaucoup, beaucoup de talent sur le terrain et en dehors du terrain aussi.
Ouais, ça va être intéressant. Écoute, on parlait d'ambassadeur pour le tennis. Tu sais, ouais. Félix, c'est un excellent ambassadeur, mais Léla, elle a toutes les cartes dans son jeu aussi, toutes les cartes dans son jeu. Ouais. Si elle peut juste aller chercher un peu plus de constance dans ses résultats ou en fait avancer un peu plus loin de façon générale, maintenant, elle est encore si jeune. Alors, gardons ça en tête. Pour terminer sur la Coupe Billie Jean King, écoute, bon, je te parlais de Yanina Wickmayer qui était parmi les bonnes joueuses là, au tournant des années 2010, 2015, 2016 dans ces eaux-là. Bon, elle est plus aussi solide que ça. Là. Maintenant, elle est autour de la 190e place mondiale, mais il reste que c'est une joueuse avec beaucoup d'expérience. Tu parlais de Yasleen Bonaventure. Bon, c'est la mieux classée du côté de la Belgique. Oui. Au au 86e rang mondial. Alors, Leila et Rebecca sont mieux classées que la meilleure joueuse classée de l'autre côté.
Exact.
Ça, c'est intéressant. Par contre, je te parlais que un peu plus tôt cette année, qu'il y avait beaucoup de défaites de Leila qu'on pouvait, comment dire, l'expliquer parce qu'elle frappait des bonnes joueuses. Mais une de ces défaites-là cette année qui est survenue aux mains de Bonaventure. Alors, voilà. Et c'est plutôt cette année. Alors ça va peut-être jouer en faveur de la Belgique en se disant, ben, Bonaventure, elle l'a battu plus tôt cette année. Pourquoi elle ne pourrait pas le refaire? C'était sur surface dure également à Auckland. Alors ça, c'est à garder en tête dans l'analyse. Mais en même temps, peut-être que Leila va se dire, ah ben, ça n'arrivera pas deux fois dans la même année. Alors ça c'est à garder en tête. Alors, tu as dit prédiction. Est-ce que tu réaffirmes ta prédiction avec ces nouvelles informations-là? Le Canada passe la Belgique.
Oui, je pense qu'on passe ce premier tour. Ça va être accroché. Je ne crois pas que ça va se faire en victoire directe. Là, je m'attends peut-être à un match décisif qui serait en double en passant. Donc, oui, j'ai confiance que le Canada remporte ce premier tour contre la Belgique.
Bon, j'aime ta confiance, tu le dis, avec beaucoup d'aplomb. Hugues, on va faire une dernière pause dans cet épisode. Et au retour, on va parler de la ville où tu possèdes 5 résidences, Monte-Carlo.
Réservez votre séjour à l'hôtel Montville et ajoutez une expérience thermale au Strom Spa Nordique à seulement $70 directement sur le site hotelmontville.com. Ambiance décontractée, design très recherché, techno bien maîtrisé, toujours amical. Montville, c'est Montréal. Venez découvrir cet hôtel incontournable et son restaurant Monem qui met en avant des cocktails créatifs et des plats généreux inspirés de la gastronomie française. Rendez-vous sur hotelmonville.com.
Je disais à la blague avant la pause, Hugues, que tu possédais 5 résidences, mais c'est quand même un endroit que tu connais bien, Monte-Carlo. Avant qu'on tombe dans le tournoi, parle-nous donc un peu de comment c'est là-bas, puis c'est quoi le feeling comme spectateur?
Je me suis peut-être payé une coupe de Airbnb, mais je vous assure, j'ai pas 5 résidences à Monaco. Mais oui, c'est un tournoi que j'affectionne particulièrement. Je suis allé 4 ou 5 fois. J'adore le moment du calendrier parce que là, c'est le début du printemps, même le début de l'été du côté européen. Là, c'est un peu en avance au niveau des fleurs, des arbres et tout ça. Il fait un petit peu plus chaud. Bien qu'il y a des fins de journée qui peuvent être assez fraîches durant le tournoi. On l'a vu hier, d'ailleurs, à Monte-Carlo. Les gens étaient bien habillés dans les estrades. Mais écoute, c'est un club, le Monte-Carlo Country Club, qui est tout au juste, qui est tout au bord de la mer Méditerranée. C'est vraiment très beau. C'est sur le côté mer, évidemment, du grand rocher de Monte-Carlo. C'est un panorama spectaculaire, tout simplement. Et j'aime aussi ce tournoi-là parce que c'est le meilleur indicateur de ce qui va se passer à Roland-Garros souvent. C'est le tournoi des spécialistes de terre battue, des grands champions, on le sait. Nadal, Juan Carlos Ferrero, Thomas Muster, dont je parlais un petit peu plus tôt, ont remporté ce tournoi-là. Björn Borg, évidemment, plus tôt. Et c'est le premier tournoi de terre battue rouge, Masters 1000, on s'entend. Et celui qui gagne ce tournoi-là, c'est souvent un spécialiste. On peut pas s'improviser. On a parlé un peu plus tôt comme un spécialiste de terre battue. Donc c'est un tournoi qui donne une bonne indication sur ce qui va se passer pour le reste de la saison. Mais c'est un tournoi hyper agréable. Puis Alex, ce qu'on voit sur le central qui est tout à fait spectaculaire, c'est un central temporaire. Ce central-là est monté de toutes pièces pour le tournoi. Il est démonté après. Il n'y a pas d'estrade. C'est le terrain numéro 1 qu'on voit le central. Il y a deux autres terrains chaque côté. Donc, quelques semaines plus tard, ça redevient un club où évidemment, les membres sont présents, mais c'est pas du tout un stade permanent. Donc, le travail qu'ils font pour mettre ce site-là dans cet état-là qui est tellement spectaculaire, c'est vraiment une grande réussite année après année.
Écoute, pour ajouter à ce que tu dis, là, écoute, j'ai la liste des gagnants depuis 1900, depuis tout le temps. Là. Regarde, remontons au milieu des années 90, là, c'est à peu près que tout joueurs qui ont connu du succès. Tu parlais de Mousseter, ben Marcelo Rios également, Carlos Moya, Gustavo Kuerten, un ancien champion à Roland-Garros, voilà. Carlos Ferrero, Guillermo Coria. Bon, après ça, Nadal, il en a 11 titres là-bas. Après ça, Djokovic. Et peut-être juste Stan Wawrinka. Ben, en même temps, il est champion. Colin, il a gagné
Roland-Garros.
Il a gagné Roland-Garros. Ouais. Fabio Fognini, on sait à quel point il est bon. Il a déjà battu Nadal sur terre battue. Et Stefano Tsitsipas est double champion en titre.
Alex, il y a beaucoup de joueurs que tu viens de nommer qui ont fait le doublé Monte-Carlo et Roland-Garros. Là. Donc, tu nommes la liste la plus éloquente de grands champions de terre battue là, en ce moment.
Avant qu'on parle du tournoi spécifiquement qui est déjà en cours, d'ailleurs, une version un peu amaigrie d'un tournoi Masters 1000, on va se le dire. Là, d'abord, ne cherchez pas les Canadiens, il n'y en a pas. Tous les émergents ne sont pas là. Il y a quelques joueurs dont je veux parler. Le premier, c'est Daniil Medvedev. Bon, c'est le joueur de l'heure sur le circuit de l'ATP. Assumons pour l'instant qu'il est le meilleur joueur au monde. Là. Djokovic, bon, on fait un retour au jeu. Est-ce qu'il a... À mon sens, à moi, il a les armes pour pouvoir être bon sur terre battue. Je veux dire, il retourne à peu près tous les balles qui sont dirigées vers lui. Est-ce qu'il peut bien se défendre, même s'il ne s'en cache pas? Il est. Ben, il est. C'est pas sa surface préférée, la terre battue.
Il a déjà dit à peu près dans ces termes-là. Et juste pour préciser aussi, Alex, pourquoi on va pas toujours tous les joueurs du top 10 à Monte-Carlo? Ce n'est pas un Masters 1000 mandatory. Il n'est pas obligatoire. Donc, il y a des joueurs souvent qui font un peu l'impasse après le Sunshine Double. Il s'est joué beaucoup de tennis depuis un mois. Il y a des joueurs qui vont préférer se reposer un peu. Alors, c'est pour ça que les tableaux sont un peu étonnants des fois à Monte-Carlo. Bien que les favoris 1, 2, 3, 4 sont du plus haut niveau. Là. Donc Djokovic, Tsitsipas, Rude, Medvedev. Pour parler de Medvedev, il a la chance quand même d'aligner une sixième finale et pourquoi pas un cinquième titre. Oublions pas que ces cinq derniers tournois, c'est cinq finales et quatre titres. Et on l'a vu s'entraîner chez Moratoglou sur terre battue depuis deux semaines. On le voit s'entraîner fort à Monte-Carlo en ce moment. Je pense qu'il veut mieux faire cette année sur terre battue. Il l'a dit ouvertement. C'est pas ma surface préférée, c'est sale, j'aime pas glisser. Et son jeu a besoin il doit être très bien ancré au sol. Et on sait que c'est pas le propre de la terre battue, évidemment, d'être bien ancré au sol. On glisse presque toujours. Mais je crois qu'il va faire un effort particulier cette année. Mais attention, aujourd'hui, pour son premier match, il joue contre Sonego, qui est un gros client italien, là, qui est un bon joueur de terre battue. Donc, il va être vraiment testé. Et on verra s'il a le potentiel, si son travail des derniers jours va payer contre Sonego parce que c'est un gros test pour son premier match aujourd'hui à Monaco.
C'est Musetti qui va affronter en ronde des 16, en fait, Novak Djokovic là, dans son match de ronde des 16. Mais ça va être un bon test, ça, c'est certain, dans le cas de...
Medvedev.
Tu parles...
Oui, oui.
Ah, OK, tu parles de Medvedev. Parle
de Medvedev, là.
OK, excuse-moi, c'est moi qui étais perdu.
Non, Medvedev et ses efforts sur terre battue, parce que c'est un challenge pour lui, puis il va vouloir poursuivre sa progression au niveau du classement, donc il doit bien performer sur terre battue. Il s'est préparé pour ça, et aujourd'hui, c'est contre Lorenzo Sonego qui va jouer.
Et je veux dire, s'il passe Sonego, ben ce serait Alexander Zverev après, alors ce sera pas de tout repos.
Grosse rivalité en plus, rivalité les deux.
Exact. Ouais. Mais écoute, est-ce qu'il a pas... Tu sais, il ressemble un peu à Raphaël Nadal d'une certaine manière, dans le sens où il reçoit très loin, il retourne beaucoup de balles, peut-être un peu moins agressif que Raphaël Nadal. Est-ce qu'il n'a pas des outils intéressants pour se défendre sur terre battue, Hugues? Je ne sais pas. Je ne veux pas me faire une analyse parce que j'en suis pas un. Je te pose la question.
Medvedev aime bien frapper à plat. Et on sait que c'est pas le propre de la trajectoire de balle de frapper à plat. Pour bien frapper à plat, il faut être bien, encore une fois, bien ancré au sol. Ça se prête pas très bien à son jeu. Je pense qu'en coup droit, il s'en sort assez bien quand même. Mais en revers, c'est plus compliqué pour lui. Donc voilà pour le style de jeu de Medvedev qui, naturellement, se prête un peu moins bien sur terre battue. Son service a moins de mordant aussi. On sait que la balle ralentit quand elle touche le sol sur terre battue. Donc, il perd aussi une arme importante pour lui parce qu'on sait que généralement, il gagne ses jeux de service plutôt facilement. Donc, non, ça lui demande un effort particulier d'adaptation à Medvedev sur terre battue.
On verra qu'est-ce que ça va donner dans son cas. L'autre question que j'ai envie de te poser, c'est celle où je me suis perdu tout à l'heure. Novak Djokovic. Bon. Oui. Là, il est redevenu numéro un mondial en dépit du fait qu'il ne joue même pas. Ça te dit à quel point il a été dominant dans les dernières années. Est-ce que Novak Djokovic part d'office favori?
À chaque fois qu'il rentre sur un tableau, moi, je le mets comme favori un ou deux, là, dépendant des circonstances. Comme Alcaraz n'est pas là, Nadal n'est pas là, mais on ne sait pas dans quelle forme est de toute façon Rafael Nadal en ce moment. Je pense que Djokovic est un prétendant important pour ce tournoi-là. Il a envie de jouer. Il n'a pas joué, rappelons-le, depuis Dubaï en février. Il n'a pas pu entrer encore une fois sur le territoire américain pour le Sunshine Double. Donc, il est là avec le couteau entre les dents. Il voit Roland-Garros. Il voit le numéro 23 qui est au bout de ce parcours-là ce printemps sur terre battue pour, encore une fois, reprendre la pole du plus grand nombre de grands chelems remportés. Donc je le mets oui comme favori, mais ça sera pas facile. Il y a eu un premier set difficile hier, 7-6, donc un tie-break, mais il s'est replacé dans le deuxième. Mais il aura une forte opposition, encore une fois, avec les Kasparov, Tsitsipas, qui sont peut-être plus naturel sur terre battue qui peut l'être. Donc, je le mets quand même favori, mais ça va être compliqué pour Djokovic cette semaine.
Ouais, tu as raison de le dire. Et je l'ai dit un peu plus tôt, bon, ce sera Musetti en ronde des 16. Et s'il fallait qu'il passe Musetti, ben ce sera soit Urkacz, soit Sinner. Alors, il aura pas un adversaire facile. Ça va être compliqué d'ici la fin du tournoi. Il n'aura pas volé ce tournoi-là s'il l'emporte, comme tu dis, parce qu'il y a des Casper Ruud qui sont dans ce tournoi-là. Il y a des Andrei Rublev qu'on n'a même pas parlé encore. Et bon, Stefanos Tsitsipas, double champion en titre de l'événement.
Oui.
La question dans son cas, c'est est-ce qu'il est en santé? Bon, il a une petite blessure, là, semble-t-il, à l'épaule, le poignet aussi peut-être. Là. Alors, s'il est en santé, est-ce que pour toi, c'est le prétendant au titre à cause des deux dernières années?
Ben, il voudra défendre premièrement, c'est 1000 points au classement. C'est un tournoi important pour lui. Il a eu du succès. Il veut défendre ses points. Encore une fois, t'as mis le doigt sur le bon point. Est-ce que il est à 100% de Tsitsipas? S'il est à 100%, il peut y aller pour un three-peat et gagner ce tournoi-là pour une troisième année de suite. On l'a vu un peu moins depuis quelques semaines. Tsitsipas, quelques mois, début d'année, plutôt moyen. Mais il est quand même troisième au classement en ce moment. Il est pas si loin derrière Alcaraz. Donc, Tsitsipas pour moi, et si j'avais à miser, je mettrais un 20$ sur Tsitsipas parce que bien que Djokovic soit favori, il pourrait aller chercher une autre victoire à Monte Carlo, Tsitsipas, s'il est en forme.
Il a un tableau relativement favorable également. Là, il a profité du retrait de Benjamin Bozy au deuxième tour. Alors ça, ce sera bien pris pour lui. Il affrontera Nicolas Jarry en ronde des 16, qui est un bon joueur de terre battue, mais pas a priori un joueur dans la même ligue que Stefanos Tsitsipas. Et là, un peu plus tard, il y aura peut-être dans les pattes un Taylor Fritz ou un Stan Wawrinka. Bon, Stan Wawrinka a connu des moments intéressants dernièrement, mais c'est quand même plus le Stan des bonnes années. Et Taylor Fritz est un joueur, un excellent joueur, mais peut-être un peu plus à l'aise sur surface dure. Alors, il a un tableau favorable là, pour une certaine partie du tournoi. Alors, ça va être intéressant de suivre Stefanos Tsitsipas. Bon, je te demande, en te laissant ta traditionnelle prédiction, qui remporte Monte-Carlo selon Hugues Léger au moment où on se parle?
Ben, je vous l'ai dit, j'étais prêt à mettre un 20 sur Stefanos Tsitsipas. Donc, j'y vais pour Tsitsipas pour un three-peat. Je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il a envie de gagner parce que c'est plus compliqué pour lui. Mais attention à quelques dark horse, là. Puis je sais même pas si c'est le bon terme, là, parce que Casper Ruud est sur sa surface. Ce que j'ai vu de lui à Estoril m'a quand même pas mal impressionné. Donc, Djokovic, Ruud, là, sont mes deux autres prétendants, mais je vais mettre Tsitsipas gagnant pour cette année encore.
Ben, écoute, c'est un choix qui se défend très bien. Dans mon cas, écoute, je vais y aller avec Novak. Il a perdu qu'une seule fois cette année. Il n'a pas joué beaucoup. Il est frais. Il a reposé. Bon, tu as dit que ça a été compliqué dans son premier match, c'est vrai, mais peut-être qu'il y a un certain manque de rythme. Moi, je ne gage jamais contre Novak Djokovic. Il a faim, c'est sûr. En plus, il veut prouver à tout le monde. Alors, je vais y aller avec Novak. Novak, qui est peut-être le choix facile, mais je pense que c'est difficile de gager contre Novak. Excellent épisode une fois de plus, Hugues. Merci à Isabelle qui s'est joint à nous pour l'entrevue de Leila Annie Fernandez. Merci à Leila d'être venue faire un tour. C'est pas la première fois qu'elle vient, là. Elle est venue à quelques reprises sur le podcast. On apprécie toujours. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'elle dise j'aimerais ça qu'on se prenne un peu plus de temps pour se jaser dans un autre contexte. Puis ça va nous faire plus que plaisir. Et en l'absence de Nicolas Richard, Hugues, je te donne le traditionnel et important mot de la fin.
Léa Annie Fernandez, une amie de l'émission, je tiens à dire. Alors, bon tennis, Alex, bon tennis tout le monde, bon début de saison sur terre battue et bon printemps.